Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, Thibaut Henton ne sera pas plongé dans son ordinateur mais fera le speaker. Pas de complément d'enquête non plus, mais la suite de nos entretiens américains. Et aujourd'hui, l'autobiographie numérique de Ethan Zuckerman par Claire Richard.
Bonjour Ethan Zuckerman, nous sommes ici au MIT à Boston. Vous êtes donc l'un des plus grands intellectuels américains sur le net. Vous êtes professeur ici au MIT, chercheur affilié au Beckman Center for Internet and Society, également directeur du Center for Civic Media, c'est-à-dire centre pour les médias civiques, dont on parlera un peu plus tard, également au MIT. Vous êtes également un blogueur prolifique et un amoureux du Ghana et de l'afropop. Vous êtes une voix incontournable ici aux États-Unis dans les débats sur le net, l'activisme numérique et l'influence des nouvelles technologies sur nos façons de vivre ensemble et notamment de faire de la politique. Et de plus, vous faites partie de cette génération qui a connu Internet sous ses différentes incarnations depuis la fin des années 80 jusqu'à nos jours et qui a été actif à divers titres, à diverses époques de l'évolution du médium. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui en faisant votre autobiographie numérique, c'est-à-dire tout simplement en parlant de votre carrière avec ce médium, et également discuter comme fil rouge de la grande question qui semble vous avoir occupé depuis la fin des années 90, à savoir la façon dont ces nouvelles technologies peuvent permettre d'améliorer le vivre ensemble. Alors pour préparer cet entretien, j'ai lu beaucoup de vos posts ainsi que votre dernier livre Rewire, publié en 2013, et ce qui est vraiment flagrant, c'est que depuis le début, on sent dans vos écrits une forme d'optimisme qui ne décroît pas, même aujourd'hui, à une époque où il y a de plus en plus de discours désenchantés sur le web et ses possibilités réelles de changer le monde social, mais pas du tout chez vous. Est-ce que vous vous considérez au moins un peu comme un cyber-utopiste ? Puisque, contrairement à beaucoup d'autres intellectuels qui rejettent cette étiquette, dans Rewire, vous semblez accepter, en tout cas partiellement, cette dénomination. Alors pourquoi ?
C'est devenu très à la mode en ce moment de critiquer Internet. C'est probablement une sorte de correctif tout à fait nécessaire depuis le début des années 90, et je dirais encore davantage depuis 10 ans. Quand on parle du rôle d'Internet dans la société, on baigne dans un optimisme sans bornes. Donc c'est assez sain, assez utile d'avoir des gens comme Yevgeny Morozov qui expriment un avis critique, et qui nous oblige à nous interroger, à savoir si cet optimisme est justifié ou exagéré. Bon, les critiques sont féroces en ce moment, mais je suis persuadé qu'elles sont nécessaires. Bon, ceci étant dit, c'est une position très confortable intellectuellement, d'être opposé à tout. C'est très facile de dire, vous êtes vraiment mais super naïfs, Facebook et Google contrôlent tout, c'est plus possible d'inventer quoi que ce soit de nouveau dans cette industrie, ou même seulement de conserver un sens moral. Il me semble que c'est une vision très réductrice du problème. Le web, tel qu'on le connaît aujourd'hui, fête sa 25e année. Mais dans la pratique, pour la majorité d'entre nous, il a à peine plus de 20 ans. Les sites tentaculaires que nous percevons comme hégémoniques, comme Google ou Facebook, ont pas plus de 10 ans. Et si vraiment ils nous étaient si insupportables, il serait pas si compliqué de construire à la place des systèmes nouveaux? Sincèrement, je pense que cette idée selon laquelle il faudrait se détourner d'Internet parce qu'il est devenu un vaste centre commercial et que la surveillance de l'État y est omniprésente, c'est une idée qui, au mieux, manifeste un manque d'imagination et, au pire, ressortit à la paresse intellectuelle. J'ai été très influencé dans ma réflexion par le dernier livre de Moïse Naïm, The End of Power, La fin du pouvoir, livre dans lequel il s'intéresse au pouvoir économique et politique et montre comment les personnes censées avoir tout le pouvoir aujourd'hui en ont par comparaison beaucoup moins que les puissants de la génération précédente. Et la raison de ce pouvoir moindre est simple, hein. Les barrières à l'entrée se sont abaissées. Et il est tout à fait vraisemblable que quelqu'un un jour arrive et déloge Google. Pour ça, il suffirait de trouver un modèle économique alternatif à la publicité, publicité que par ailleurs tout le monde déteste. Je vous assure que par ce moyen, vous pourriez également mettre Facebook très en difficulté, hein. D'ailleurs, Facebook est déjà dans une dynamique plus lente, perd de la popularité, surtout parmi les jeunes et les personnes qui se soucient de leur vie privée. Rien à voir avec General Motors qui a régné dans l'industrie, sur l'industrie automobile pendant plus de 5 décennies. Aujourd'hui, le leadership sur un marché s'exerce beaucoup moins longtemps qu'avant, notamment parce que la barrière à l'entrée est tant plus basse, des idées et des comportements nouveaux émergent beaucoup plus facilement qu'avant. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec Internet. C'est pas la profusion de nouveaux produits ou services, mais la possibilité donnée à tous d'arriver et de dire « Pourquoi on ne changerait pas notre manière de faire ?» Personne n'aurait pu imaginer qu'un jour on publierait des messages de 140 caractères racontant ce que nous avons lu ou mangé. Hein. C'est juste que créer un nouveau média aujourd'hui, c'est créer un petit outil chouette, pas un énorme machin très compliqué. C'est pour ça, je pense que les cyber-pessimistes sont en fin de compte des gens sans imagination. Ce qui serait faux, ce serait de me définir comme un cyber-utopiste. Je perdrais parce que les utopistes ne gagnent jamais. Mais optimiste, oui, je suis optimiste. Il n'y a qu'à voir la quantité d'idées fascinantes qui proviennent de ces gens toujours plus connectés et qui échangent toujours plus d'informations entre eux.
That comes from people being more highly connected and having the ability to trade information with one another.
Qu'est-ce qui vous a amené vers Internet au début des années 90? Qu'est-ce que vous aviez en tête qui vous intéressait particulièrement?
I had found the Internet even earlier than the 1990s.
J'ai découvert Internet juste avant le début des années 90, en 89, alors que je venais d'entrer à l'université. Et ce qui m'a amené à Internet, c'est l'amour. J'avais une histoire avec une fille qui vivait en Californie. Moi, j'étudiais dans le Massachusetts. Et pour réduire la distance entre nous, on a fait quelque chose de très très romantique. On a échangé les mots de passe de nos ordinateurs pour pouvoir en quelque sorte rentrer dans la machine de l'autre. Alors, je m'en suis mieux tiré qu'elle, hein, parce que ça m'a obligé à apprendre le langage informatique utilisé à Berkeley, le Berkeley Unix, alors qu'elle, elle a dû affronter le VAX VMS, qui était un langage particulièrement austère.
Hein. I found the net really fascinating in the late 80s and early 90s.
La fin des années 80 et le début des années 90, c'était une période passionnante sur Internet parce que les gens qui étaient là sur les réseaux formaient un club très restreint et composé de personnes étranges et aux intérêts très très divers. Tout ce monde se retrouvait sur des plateformes multijoueurs, des ancêtres de Second Life. Ils faisaient des petites soirées entre amis, ils faisaient danser le tango à leurs avatars. C'était vraiment un endroit fascinant.
And it was just a fascinating space. And so I graduated from undergraduate in 93.
Puis j'ai eu mon diplôme en 1993 et je suis parti en Afrique de l'Ouest, sans doute le lieu le plus éloigné d'Internet que vous puissiez trouvé. Je suis rentré en 1994 et c'est à ce moment-là qu'un ami m'a parlé de cette chose appelée le web. Et c'est une semaine plus tard, je pouvais dire je suis web designer et je pouvais monter un business, proposer mes services. Un autre exemple de la réduction des barrières à l'entrée.
Hein.
Et c'est comme ça que j'ai été engagé par une start-up qui est devenue, dans ses meilleurs moments, le site internet le plus visité en 1998. Internet, c'était alors un endroit qui rassemblait peu de gens, mais des gens tous très convaincus que cet endroit deviendrait très important. Et puis à l'époque, vous pouviez être extrêmement créatif sans avoir autre préalable que le simple intérêt que vous portiez à un sujet. Ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Hein. Je suis arrivé au bon moment. Ce qui me fascinait le plus, c'était les différences de comportement qu'il était possible d'observer entre le monde online et le soi-disant monde réel. Cette possibilité de vivre à la fois online et offline, en ligne et hors ligne, était stupéfiante.
Et est-ce que vous étiez déjà intéressé par des questions justement d'activisme à ce moment-là ?
Oui, par certains aspects de ma vie, je réfléchissais déjà à la question du cosmopolitisme.
Going to university in a town of 8,000 people in rural Massachusetts.
J'ai quitté la ville de mon université dans le Massachusetts, une ville très blanche, rurale, qui comptait 8000 habitants, pour aller vivre à Accra, la capitale du Ghana. Et c'était parce que je me demandais ce qu'on sait du monde, ce qui nous échappe, de certains langages, de certaines cultures. Donc oui, c'est un intérêt assez ancien pour moi. Et puis c'est vrai que plus jeune, je m'étais impliqué dans Amnesty International et d'autres organisations similaires quand j'étais au lycée. Donc c'est vrai que c'était plutôt naturel pour moi de m'intéresser à la manière dont Internet pouvait renouveler l'activisme. Mais mon implication vraiment dans l'activisme a pris plus d'envergure quand j'ai fondé l'entreprise Tripad. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer ce que c'est Tripad, mais il faut se remémorer le web avant Facebook, avant MySpace. C'était l'époque des pages personnelles où vous pouviez juste mettre en ligne une photo de vous, un CV et une liste de vos centres d'intérêt. Et Tripad était l'une des deux principales entreprises qui vous permettait de construire vos pages personnelles facilement. Alors au début, on pensait qu'on allait surtout proposer nos services à des étudiants américains. C'était eux qu'on visait prioritairement. Mais une de nos plus grandes audiences, c'était en fait en Malaisie. On était surtout présents dans des pays occidentaux comme le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis bien sûr, mais notre troisième pays en termes d'utilisateurs, ça trouvait être la Malaisie. Alors j'ai imprimé des pages d'accueil de sites d'utilisateurs malaisiens, je les ai passées au département des études de l'Asie du Sud-Est de notre université, et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on ait autant de Malaisiens? Ils ont regardé le document attentivement et puis ils m'ont dit, bon, laisse-nous t'expliquer, les Malaisiens ont un rapport très fort, très particulier aux médias, et il y a en ce moment en Malaisie une forte tension politique. L'un des acteurs de ce débat était Anwar Ibrahim, le leader de l'opposition qui incarnait ce mouvement réformateur.
Et
la Malaisie, en fait, s'est très vite mise à Internet. Le gouvernement a fait en sorte que les citoyens aient un accès au débit, si bien que le seul espace où les gens pouvaient parler d'Anwar Ibrahim et du mouvement réformateur, bah, c'était sur Internet. Sur un site internet. Alors c'est alors posé le problème suivant est très intéressant. Bon, c'était sûr qu'on n'allait pas gagner le moins de centimes grâce aux utilisateurs malaisiens. La raison économique nous aurait alors commandé, voilà, on devrait limiter le site aux utilisateurs anglophones uniquement, on devrait se débarrasser de ces gens, qui ça nous coûte des fortunes de maintenir toutes ces pages web. Et finalement, on a décidé de faire l'inverse et de devenir les sponsors de l'équipe olympique malaisienne pour les JO de 1996. Et notre plus grande source de fierté, à ce jour, reste la médaille d'argent masculine au badminton en double masculin. Donc très vite, on a décidé que Tripad serait une plateforme pour la liberté d'expression. Alors, on n'aurait pas utilisé ces mots à l'époque, mais aujourd'hui, je le vois comme un espace public, au sens où le définit Habermas, un lieu où les gens peuvent réagir à la presse, à la télévision. Mais un espace public qui aurait bougé, se serait déplacé dans l'espace numérique, un espace public qui nécessite certes une connexion Internet, mais qui permet de partager des idées, d'amplifier certaines opinions et d'en critiquer d'autres. Alors, il y a plein de choses bizarres dans cet espace public, notamment le fait que nous avons laissé des entités privées comme Facebook ou Google en prendre le contrôle et lui donner forme. Mais je pense que cette situation n'est pas définitive et que l'intérêt des gens sur ces questions, pour ces questions, va croissant.
Is an incredibly interesting and important change, and it's particularly important for people in closed media environments. So for me, the end of all of this is years later, I was at the Berkman Center.
Alors juste en guise d'anecdote, j'étais au Berkman Center il y a quelques années à Harvard pour une rencontre de blogueurs internationaux. Et j'ai discuté avec un blogueur malaisien très actif. On était aux toilettes, j'étais en train de me laver les mains quand je lui ai dit « Je crois pas que tu le saches, Jeffou, mais j'étais le responsable technique de tripad.com, tripad.com. » Il s'est tourné vers moi, il avait les mains mouillées, il m'a pris dans ses bras. C'était si important pour l'opposition malaisienne à cette époque. Cet épisode m'a rappelé combien nous pouvons être critiques à l'égard de certaines entreprises pour l'implication dans la surveillance, mais qu'il ne faut pas oublier le rôle d'espace de débat dans certaines sociétés très contrôlées.
But we have to take very seriously the importance of opening up those public spheres, particularly in closed societies.
Cette soirée de fête de la musique, hommage à la musique amateur avec cette vidéo trouvée sur YouTube. Deux jeunes garçons reprennent le fameux Hotel California au ukulélé. Ils sont très sérieux. Derrière eux, un sapin de Noël mal décoré, puis une baie vitrée. Tout est un peu bas de gamme, mais l'enregistrement est bon, la reprise assez virtuose. Près de 670 000 ont regardé cette vidéo. Claire Richard et Ethan Zuckerman, suite de l'autobiographie numérique de ce pionnier de l'Internet citoyen.
Vous fermez Tripod en 1998. Et en 2000, deux ans plus tard, vous créez Geek Corps, qui est une ONG qui envoie des volontaires extrêmement qualifiés techniquement pour aider à installer une infrastructure, l'infrastructure nécessaire à la révolution des nouvelles technologies de communication dans les pays en développement. Et vous commencez au Ghana, c'est ça? Est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous avez donc appris à Tripod et ce que vous partez faire avec Geek Corps? Voilà, et est-ce que vous pouvez aussi du coup nous décrire un peu ce projet et où ça en est aujourd'hui, si ça continue encore?
So, it's hard to remember now, but there really was this whole sort of...
On s'en souvient pas aujourd'hui, mais c'était l'époque de la bulle Internet.
In 1999.
1999, l'époque où la valeur des entreprises du web n'avait rien à voir avec leurs résultats effectifs, et l'époque où personne ne savait vraiment s'il était possible de faire de l'argent dans ce domaine. Et 1999, c'est l'année où les premières générations d'entreprises comme Tripod est passée à autre chose. Et la plupart de mes amis, d'ailleurs, sont partis travailler dans des grosses entreprises comme Google, ou alors ils sont devenus capital risqueurs. Aucune de ces alternatives ne m'attirait. J'étais pas venu à l'Internet pour l'argent, mais plus pour essayer de mettre en œuvre certaines idées que j'avais en tête. À l'origine de Tripod, il y avait cette intuition que grâce à Internet, il était possible de lancer une entreprise et de rayonner à l'international très vite. On était dans une ville à 8000 personnes, on était à 300 km de New York, 250 km de Boston, bref, au milieu de nulle part. Et pourtant, on a construit ce site qui a connu un succès spectaculaire. Je me suis dit, mais est-ce que je ne pourrais pas faire la même chose au Ghana? J'avais vécu au Ghana en 1993, je savais que le Ghana était un pays avec une forte culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat, même peut-être plus fort qu'aux États-Unis. Au Ghana, si vous n'avez pas d'emploi, hein, vous essayez de trouver quelque chose qui a de la valeur, ne serait-ce qu'un tout petit peu de valeur, hein, puis vous le vendez. C'est pourquoi j'ai pensé que le Ghana serait un endroit parfait, le marché parfait pour Internet. Mais ma première interrogation était, attendez, est-ce qu'il existe seulement les infrastructures qui permettent d'accéder à Internet? Quand j'y étais en 1993, on était seulement trois à être online. Une entreprise ghanéenne avait un employé qui utilisait Internet. Le responsable de USAID, l'agence américaine d'aide au développement, avait une connexion. C'est celle que j'utilisais pour aller sur Internet, ce qui faisait de moi le troisième internaute du Ghana. Bon, il y en avait peut-être quelques-uns ailleurs, mais certainement pas beaucoup. Hein. En revanche, en 1999, beaucoup de monde au Ghana s'intéressait à Internet. Et de nombreuses personnes montaient des entreprises autour des technologies. Seulement, elles étaient novices, elles manquaient d'expérience. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise à Tripod, c'est que coder des logiciels, fabriquer des logiciels ne suffit pas, il faut également savoir les vendre. C'est davantage de l'artisanat et du commerce que de la science. Alors du coup, ce qu'on a essayé de faire au Ghana, c'est de faire venir des développeurs expérimentés, des designers graphiques expérimentés. En fait, on voulait juste partager certaines compétences et augmenter le niveau de connaissances. Pour moi, l'enjeu au départ, c'était de savoir si Internet pouvait réellement décoller au Ghana. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande massive pour les nouvelles technologies et ces métiers dans les pays en développement. Ces pays ont besoin d'argent. Les États-Unis ou même la France débloquent des fonds pour aider des pays comme le Ghana. Le problème, c'est que l'argent, en l'occurrence, a été dépensé pour des projets comme, par exemple, le système de paie des fonctionnaires qui a été réalisé par IBM.
Et généralement, ça va sur un contrat à IBM.
Et d'ailleurs, globalement, ces contrats vont à IBM parce que IBM est compétent et dispose de consultants sur place. Alors je me suis demandé, mais pourquoi tout ça ne pourrait pas être fait par des Ghanéens? Pourquoi pas trouver des locaux pour faire ce travail? Et c'était selon moi la seule façon pour un pays comme le Ghana de décoller véritablement. Alors on a essayé de faire ça en fusionnant Geekcorp avec une entreprise américaine appelée la National Executive Service Corps, qui envoie d'anciens chefs d'entreprise dans des entreprises à l'étranger pour former le personnel aux techniques de management. Mais alors, le choc culturel a été insurmontable. Hein. Il s'agissait d'une association humanitaire gérée par des républicains conservateurs. Rendez-vous compte. À l'époque, c'était pendant l'administration de Bush. J'étais très à gauche. J'ai commencé à travailler avec George Soros, milliardaire de gauche très célèbre aux États-Unis. Et mon nouveau patron m'a expliqué que l'administration Bush ne nous aiderait jamais si on travaillait en même temps avec ce gauchiste bien connu. Donc j'ai été viré de ma propre entreprise. Alors aujourd'hui, Corp existe encore, même si elle ne fait plus grand-chose. Et je suis encore sollicité par des gens qui veulent la relancer et qui sont animés par cette idée de faire venir des gens de pays développés dans des pays pauvres pour permettre le transfert de technologie, mais je ne suis pas sûr que ce soit une excellente idée.
Vous avez continué ensuite à travailler avec le Ghana et d'autres pays africains, et notamment pour un projet en 2005 qui s'appelait USAID. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et aussi du coup dire quelle était la différence avec le précédent Geekcorps?
Je continue à beaucoup travailler en Afrique en tant que consultant sur plusieurs projets. Puis il y a d'autres projets que j'essaye de mener par moi-même, mais surtout je m'occupe de mon dernier projet, USAID. Alors là où USAID diffère des projets, des autres projets, c'est qu'il a été conçu et développé au Kenya. Ça vient pas de l'extérieur, c'est vraiment issu des circonstances politiques qu'a connu le Kenya récemment. Et notamment suite aux élections de 2007, les élections ont été, je dirais qu'elles ont été volées par le parti au pouvoir. Il s'en est suivi plusieurs semaines de grande violence. Environ 1200 personnes sont mortes dans ces affrontements. Et ça a principalement touché des gens qui venaient des communautés très pauvres. Alors ces événements ont profondément choqué les Kenyans, mais aussi le reste du monde. Parce que jusque-là, le Kenya était considéré comme le pays le plus stable d'Afrique de l'Est. C'est là que les organisations humanitaires avaient leur bureau, qu'étaient installés les correspondants des médias occidentaux. Personne n'aurait imaginé que la situation puisse dégénérer à ce point au Kenya, et les Kenyans d'ailleurs moins que les autres. Mais mes amis kenyans, d'ailleurs presque tous des blogueurs, ont réagi aux violences en se réunissant pour essayer de trouver des moyens de contenir la violence. Ils se sont dit, bon, on a besoin de faire plus de journalisme citoyen. Les journaux locaux ont décidé d'être prudents, de ne pas couvrir les actes violents pour ne pas enflammer le conflit. Ils sont très inquiets des conséquences possibles de la couverture de tels actes. Ils pourraient conduire à de nouveaux cycles de violence.
People will read the reports and it will create new cycles of violence.
Mais en même temps, mes amis étaient très inquiets qu'on ne parle pas des tragédies qui touchaient les gens, la destruction de maisons, de commerces, la mort de proches. Alors, ils ont lancé plusieurs projets. Le premier, ça a été de fermer un forum qui était devenu un lieu de tension et de propagation des violences interethniques. À la place, ils ont juste laissé une phrase en entête qui disait « Je n'appartiens à aucune tribu, je suis kényan ». C'était un début pour ouvrir un débat sur l'identité nationale qui dépasse les considérations communautaires et ethniques. Et ils ont également monté un site appelé Ushahidi, ce qui veut dire « témoin » en swahili. Et le principe est très simple. À l'aide de n'importe quel téléphone, vous pouvez raconter par SMS ce qui se passe dans votre communauté et ça alimente le site automatiquement. C'est très simple, le site récupère les données et les organise spatialement sur une carte, mais le principe s'est avéré très efficace. Cette idée de crowdsourcer, de placer sur une carte les événements qui se déroulaient au Kenya, était tout simplement révolutionnaire. D'ailleurs, cette idée a depuis été réutilisée dans plein d'autres endroits. C'est devenu un outil vital à Haïti au moment du tremblement de terre. Les sinistrés utilisaient Ushahidi comme une ligne téléphonique pour demander de
l'aide.
Les gens indiquaient qu'ils étaient pris au piège, en danger ou avaient besoin d'eau potable. Et ça a considérablement facilité le travail des organisations humanitaires qui faisaient le tour de l'île pour évaluer les dégâts. Alors aujourd'hui, Ushahidi est tellement populaire qu'il est utilisé pour des problèmes qui sont bien moins importants, comme par exemple repérer les tempêtes de neige à Washington. Bon. La possibilité laissée aux individus de contribuer à la collecte et à l'organisation de l'information est à mes yeux une base de travail extrêmement solide.
Est-ce que vous avez vu à travers diverses campagnes ou divers événements, alors je pense au printemps arabe mais pas seulement, une théorie du changement avec les technologies se dessiner qui soit plus efficace, plus peut-être vérifiée que d'autres ?
Je pense que la plupart du temps, quand on tape sur l'activisme en ligne en disant qu'il est bête ou inefficace, ce qu'on veut dire c'est qu'il ne s'appuie sur aucune théorie du changement. Il n'y a pas de raison logique pour que Internet change le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Je crois que le problème, ce n'est pas de savoir si Internet fonctionne mal ou si c'est la forme d'activisme qui n'est pas la bonne. En fait, ce qui est en train de changer profondément, c'est la nature même de ce que c'est que d'être un citoyen. Pour moi, le problème vient du fait que dans mon pays, comme dans le vôtre d'ailleurs, on passe beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'est une démocratie représentative et à rendre compte des campagnes politiques comme s'il s'agissait des courses de chevaux. Mais la vérité, c'est que la démocratie représentative est loin d'être le système qui donne le plus aux gens l'impression d'avoir de l'influence sur le processus politique. La démocratie représentative aux États-Unis, par exemple, est complètement corrompue par le rôle que joue l'argent dans les campagnes. Et élire des représentants au Congrès, c'est inutile tant la division entre droite et gauche bloque tout processus législatif. Ce système laisse une place minime pour les citoyens. Si quelque chose vous met en colère, vous pouvez toujours envoyer une lettre à votre député, mais c'est pire qu'inutile. Votre représentant vous répondra d'un ton sarcastique « Ah, je sais, je me sens un peu idiot, mais je peux rien faire pour vous ». Donc tout le monde se demande ce qu'il est possible de faire pour améliorer cette situation, et plein de gens font des choses qui ne sont pas très bien pensées, sont un peu bêtes, voire carrément contre-productives. Je pense que si on est vraiment honnête, on doit surtout se demander ce que ça signifie d'être un citoyen aujourd'hui. On se demande tous comment nos actions citoyennes peuvent avoir davantage de portée. Souvent, ce genre de choses paraissent bêtes au premier degré, mais elles peuvent se révéler beaucoup plus puissantes qu'on ne le croit. Récemment, il y a eu aux États-Unis un mouvement qui incitait les utilisateurs de Facebook à changer leur photo de profil pour la remplacer par le symbole de la campagne pour l'égalité des droits civiques et le mariage homosexuel. Il s'agit simplement d'afficher un signe égal sur un fond rouge pour montrer votre soutien au mariage pour les couples homosexuels. Alors les gens en ont rigolé, et en gros ils ont dit, mais qui peut bien croire que la Cour suprême des États-Unis va prêter une quelconque attention au nombre de gens ayant changé leur photo de profil sur Facebook? Mais en fait c'était une manière de dire, votre théorie du changement est fausse, c'est la Cour suprême qui a le pouvoir, et elle ne va prêter aucune attention à ce que vous faites. Mais je pense que la théorie sur laquelle reposait ce mouvement, elle n'est pas si mauvaise que ça. Elle consistait juste à montrer que la question du mariage homosexuel n'était plus une question de minorité, mais une question de majorité. Une majorité d'Américains supportent le mariage homosexuel, ou tout au moins une majorité des jeunes Américains. Si vous aviez été sur Facebook à ce moment-là, et que vous vous étiez rendu compte qu'un tiers ou même la moitié de vos amis avaient changé leur photo de profil, ça vous aurait montré que le paysage avait changé, que ce n'était plus un combat minoritaire, mais que c'était devenu un combat majoritaire. Je dirais qu'il y a deux théories du changement qui permettent de comprendre le printemps arabe. La première théorie de changement a été définie par Howard Rheingold. Et puis elle a été affinée par Clay Shirky. Elle dit la chose suivante. Internet permet aux gens de se coordonner beaucoup plus facilement. Par exemple, Howard Rheingold a montré comment aux Philippines, les gens avaient utilisé leur téléphone mobile pour organiser des manifestations. Clay a poursuivi et étendu cette analyse dans son livre « Here Comes Everybody ». En expliquant comment le fait d'avoir Internet sur son téléphone permettait à un nombre restreint de personnes d'organiser des rassemblements avec un grand nombre de personnes. Mais en réalité, je pense que cette théorie ne suffit pas à expliquer les révolutions arabes. Bien sûr, certaines personnes utilisaient Internet pour coordonner leurs actions, mais c'était quand même très compliqué d'utiliser Internet sans être dans le même temps surveillé par les autorités. Vous ne pouviez pas aller sur Facebook et dire « Ok, tout le monde, on se rejoint dans 30 minutes, place Tahrir. » Simplement parce que vous auriez informé la police exactement en même temps. Je pense qu'il y a une seconde théorie du changement qu'on pourrait appeler la théorie de l'espace public alternatif. Dans des pays où les médias sont très contrôlés, la presse en ligne est devenue un médias alternatifs. Pouvoir simplement documenter ce qui se passe et rassembler les données de ce qui a lieu sur le terrain, ça, c'est très, très important. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Tunisie. Facebook était moins une plateforme de coordination qu'une plateforme d'information. Les gens utilisaient Facebook pour se renseigner sur les événements qui avaient lieu, par exemple, à Sidi Houssaïd. Ces posts Facebook étaient ensuite compilés par des groupes d'activistes comme Nawat et puis envoyés à Al Jazeera qui s'en servait pour ses bulletins d'information sur sa chaîne Al Jazeera Arabique. Et pour moi, cette combinaison entre d'un côté un Internet devenu un espace public alternatif et de l'autre des réseaux sociaux qui influencent le contenu des médias traditionnels, ça me semble être un modèle du changement très très puissant. Et on a vu exactement la même chose se dérouler en Turquie quand ce qui se passait à Gazi n'était pas couvert par CNN Turquie. Les manifestants mettaient beaucoup d'informations sur Twitter et c'est comme ça que rapidement les médias nationaux sont servis de Twitter comme source.
Puff par Just a Band, un groupe kényan qui se décrit lui-même comme un groupe de geeks expérimental et DIY kényan qui prend la vie comme elle vient. Formé en 2003 à Nairobi, chanson tirée de l'album 82 qui date de 2010, et c'est un hommage à Ushaidi, la plateforme dont parlait Ethan Zuckerman. Ethan Zuckerman, le professeur du MIT, figure importante de l'Internet mondial qu'on retrouve au micro de Claire Richard.
blow the house down to nakam namastas sija onekana aha chukua dakika kama tano uite mazima moto tutumeshika nare wakicha leo watapata duni moshi imebaki juu maji haitoshi kuzima hii be so smooth oh so nice play it twice have a good time
I'm ready to disco you got to give me something and I'll get something back
Alive, the sky, it seems so far away, but we know that we've been to the moon and back, and we're sure that nothing's gonna hold us back. Take it easy, say she can ease it, yeah, yeah, to me cheesy, watch and to lease it. Give me your points, come up, occupied. I need to keep my mind occupied.
Des illusions à laquelle vous faites allusion dans votre livre Rewire et aussi sur votre blog, c'est également dans les années 2000, c'est le moment où vous vous rendez compte qu'il y a également des disparités en termes d'attention, que les gens ne font pas attention aux mêmes choses et que du coup cette espèce d'utopie d'un monde commun qui est une idée qu'on trouvait beaucoup dans les années 90 grâce à Internet, en fait en réalité reproduit des fractures qui sont géopolitiques, économiques, etc. et qui se traduisent en termes d'attention. Alors pourquoi vous avez commencé à vous intéresser à ça? Et quelles ont été vos conclusions à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait?
Quand je suis retourné au Ghana en 1999 pour lancer GeekCorp, je pensais vraiment qu'Internet faisait du monde un espace plus petit, plus interconnecté. Et je pensais ça parce que je travaillais avec une entreprise techno-ghanéenne et quand je rencontrais un problème compliqué, il me suffisait de me connecter, de poser la question à des copains qui étaient partout dans le monde et on me donnait la réponse. Je regardais ça et je me disais, mais c'est incroyable. On a fait tellement de chemin depuis 10 ans. Quand j'habitais au Ghana, la première fois, que les appels téléphoniques à l'étranger coûtaient une fortune, j'en passais rarement plus de 4 par an. Bon, ça va changer tout. Et puis, il s'est passé quelque chose de très intéressant. En 2000, il y a eu des élections au Ghana. Elles se sont très bien passées. L'opposition a pris le pouvoir, un parti qui était depuis 20 ans. Tout s'est déroulé à peu près dans le calme, ce qui est très rare en Afrique de l'Ouest. Et ça a été le début d'une vague de poussée démocratique qui s'est propagée sur tout le continent. Pour nous, qui étions au Ghana, on a tout de suite senti que ce qui se passait était important. Mais le reste du monde n'avait pas l'air de le savoir. J'ai commencé à regarder la presse américaine, la presse européenne. Quasiment personne n'avait l'air d'y prêter la moindre attention. C'est comme ça que j'ai pris conscience du pouvoir de l'attention. Une des raisons que j'avance souvent pour expliquer combien il est difficile de gérer une organisation humanitaire en Afrique, c'est que personne ne prête attention à ce qu'on y fait. On ne s'intéresse qu'à ce qui ne va pas. Personne ne prête attention au fait que le Ghana possédait des entreprises de haute technologie et encore moins au fait qu'une vague démocratique déferlait sur le continent africain. Et je me suis rendu compte que, bien sûr, Internet pouvait rendre le monde plus interconnecté, mais qu'en pratique, ça ne pourrait être le cas que si les gens changent leur mode d'attention et leur son d'intérêt. Et c'est cet épisode qui a cristallisé mon intérêt pour cette question de l'attention. Alors aujourd'hui, beaucoup de penseurs considèrent l'économie de l'attention comme une porte d'entrée intéressante pour comprendre Internet. À partir du moment où Internet est un monde où il y a un énorme surplus de contenu accessible, produit par des gens qui sont toujours plus nombreux à écrire des histoires, à faire de la vidéo, il y a toujours quelqu'un qui vous interpelle pour obtenir votre attention.
We all have so many hours of the day, we all have so much time that we can give.
ce qui la rend très volatile. Et on peut dire qu'il y a aujourd'hui une vraie guerre, une vraie compétition d'attention. L'attention est devenue la valeur sur laquelle repose, pour le meilleur et pour le pire, nous avons construit un Internet gratuit dans son utilisation, principalement financé par la publicité. Or, la publicité, elle sollicite votre attention. La publicité, elle dit juste « Regardez-moi un instant, je vais vous donner ce que vous cherchez. » Du coup, dans ce monde où l'on se bat tous pour obtenir l'attention, il semble que nous ne soyons plus aussi attentifs au reste du monde que nous l'étions encore 20 ans auparavant. D'ailleurs, c'est surtout en étudiant les médias américains et britanniques que je m'en suis rendu compte. Des rapports montrent bien que les chaînes de télévision américaines s'intéressent beaucoup moins aux questions internationales aujourd'hui qu'à l'époque de la guerre du Vietnam ou de la guerre froide. On s'est laissé aspirer doucement par un traitement de l'information beaucoup plus local qu'avant. Et c'est la même chose au Royaume-Uni, où la couverture de sujets internationaux est bien moins importante aujourd'hui qu'il y a 40 ans. En fait, quand vous rendez accessible un contenu plus fourni, vous offrez plus de choix aux gens. Et quand vous donnez aux gens le choix de regarder ou d'entendre ce qu'ils veulent, eh bien, ils choisissent sans doute plus qui les touche directement. Ils iront naturellement vers les contenus qui les touchent ou qui touchent leur famille, leurs amis. Ils vont inconsciemment filtrer les contenus, d'une certaine manière, qui concernent des personnes ou des cultures différentes d'eux. Les sociologues appellent cette dynamique l'homophilie. Lorsque vous surfez sur Internet, vous allez davantage prêter attention aux sujets qui vous sont proches et les réseaux sociaux accentuent cette tendance. En fait, le principe à l'œuvre dans les réseaux sociaux, c'est le suivant. Ce qui est important, c'est ce qui est important pour vos amis. Ou ce que font vos amis.
To the subjects and the issues that affect those who are closer to ourselves, and that social media really aggravates this tendency. That social media basically says the most important thing to know is what your friends know and what your friends are doing.
Qu'est-ce que vous avez du coup essayé de faire pour compenser ces fractures d'attention, cette réduction du spectre de l'attention?
Comme je suis un mauvais universitaire, j'ai décidé d'agir avant de réfléchir. Si j'étais un bon universitaire, j'aurais probablement étudié le problème pendant 10 ans et après seulement, j'aurais peut-être fait quelque chose. Alors, au lieu de ça, j'ai commencé à travailler avec mon amie Rebecca McKinnon, qui dirigeait le bureau de CNN à Pékin. Autour de 2004, on s'est beaucoup intéressés tous les deux à ce qui se passait dans les nouveaux médias. Elle lisait des blogs pour comprendre ce qui se passait en Chine. Et de mon côté, je lisais des blogs d'analyse du continent africain. Et c'est comme ça qu'on a compris qu'il fallait donner une plus large audience à ces médias émergents en traduisant ces blogs et en assurant la promotion. Que ce serait un bon moyen d'élargir l'horizon des gens qui s'informent habituellement dans des médias plus mainstream. Et c'est dans cette optique qu'on a lancé Global Voices. Au début, le dispositif était très léger, très simple. Il s'agissait que de nous deux à Harvard et essayant de promouvoir certains blogs. Et assez rapidement, c'est devenu une très, très grande communauté globalisée. Aujourd'hui, il y a près de 1400 personnes qui travaillent à ces projets dans près de 130 pays. Alors, elles décrivent sur les réseaux sociaux les conditions de vie dans leur pays, les enjeux dans leur société. Ça fait déjà 10 ans que ce site et donc que cette communauté existe. Et c'est une belle réussite. C'est l'une des rares communautés réellement internationales qui s'interroge sur les manières de s'intéresser aux problèmes des autres, d'apprendre des autres, de travailler ensemble. Et c'est aussi un site pionnier sur les services de traduction en ligne. On a commencé avec le principe suivant, chacun peut s'inscrire et traduire un article et on essaye d'accorder autant de reconnaissance au traducteur qu'à l'auteur de l'article. D'ailleurs, ce modèle a été repris par les conférences TED. C'est un modèle
qui a été repris par les TED conférences et ils l'utilisent pour traduire tous leurs TED talks.
C'est comme ça qu'ils arrivent à traduire tous leurs discours. Mais par certains aspects, ce site n'est pas du tout une réussite. Ça n'a pas du tout changé la manière dont se répartit l'attention. Le fait qu'on ne prête aucune attention à des pays comme Madagascar, par exemple. On était très impliqués à Madagascar parce que le site comptait beaucoup de malgaches. Bon, malheureusement, on n'a jamais constaté une hausse de l'attention pour ce pays. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un pays fait l'actualité, Global Voices devient une source d'information pour les journalistes. La plupart des médias américains n'avaient pas dit un mot sur Ben Ali avant qu'il soit chassé du pouvoir, et à ce moment-là, tout le monde s'est tourné vers nous en disant « Ah, mais vous devez savoir des choses utiles sur les Tunisiens ». On a répondu « Bah oui, en effet ». Et c'est vrai qu'on venait nous voir pour obtenir une perspective plus authentique sur ce sujet, mais cette idée selon laquelle nous pourrions changer les médias mainstream et changer la façon dont l'information est fabriquée, ben, cet aspect, ça, il ne s'est pas vérifié.
Donc là, c'est une question effectivement dont vous parlez beaucoup dans votre dernier livre « Invoyeur » en 2013. Cette question que la promesse d'un monde cosmopolite que semblait annoncer Internet dans les années 90 ne s'est pas produite, que les sphères d'attention restent aussi fragmentaires et resserrées qu'elles l'étaient auparavant. Est-ce que vous voyez ce livre d'abord comme une forme de conclusion ou de bilan, en tout cas provisoire mais désenchanté, de ces 20 dernières années de travaux ?
I've been in love with the Internet.
Mon histoire d'amour avec Internet dure depuis 25 ans, mais Rewire est un livre qui parle d'une relation compliquée, pas d'une passion amoureuse. C'est plutôt l'histoire de couple, une histoire de mariage où il faut faire des compromis. Mais bon, je dois dire que j'ai quelques connaissances sur le sujet, étant moi-même marié depuis 16 ans. Je pense qu'au début d'Internet, la plupart d'entre nous étaient très optimistes sur sa faculté à rendre plus de connaissances accessibles et sur les possibilités d'interaction nouvelles qu'il offrait. C'était un mythe assez répandu que Internet rendrait le monde plus petit, plus interconnecté. Bon, aujourd'hui, 25 ans plus tard, je dois admettre que la réponse à tout ça, c'est pas tant que ça.
It's amazing that I can make a Skype call.
Je veux dire par là que c'est incroyable de pouvoir appeler des gens à l'autre bout du monde gratuitement avec Skype. Mais en fait, il est très improbable que je rencontre quelqu'un dans notre pays, sauf si quelque chose d'extraordinaire arrivait.
Et
à ça, vous pouvez réagir en disant « Mais Internet, tu as brisé mon cœur, finalement, tu n'es pas l'espace cosmopolite dont je rêvais. » Mais il me semble que c'est une attitude très simpliste et naïve. Je pense qu'il faut plutôt voir les choses de la manière suivante. C'est bien plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Par nature, Internet ne rend pas le monde plus interconnecté. Mais si c'est ce que nous voulons vraiment, eh bien c'est possible, il suffit de s'en donner les moyens. Jusqu'à présent, on conçoit Internet comme un outil pour obtenir des relations sociales ou professionnelles. Peut-être qu'il faut que nous soyons bien plus créatifs dans nos usages de l'Internet si nous voulons qu'il ait un effet positif sur la société. Nous devons faire un effort et pas considérer ces effets pour acquis. Et c'est ça le message de mon dernier livre, Rewire. C'est pas tant le fait que je sois déçu par Internet, mais plutôt celui que je suis déçu par ce qu'on en a fait jusqu'à présent.
I'm disappointed by the Internet. It's that I'm disappointed by what we've done and what we haven't done with the Internet. I think that's where the disappointment comes in.
Merci à Ethan Zuckerman, dont les références sont sur la page de Place de la Toile, une page où vous pouvez aussi télécharger cette émission pendant un an et la réécouter pendant trois. Je rappelle que comme à chaque fois lors de ces entretiens américains, on met sur le site une version en langue originale, hein, c'est donc sur la page de Place de la Toile. Merci à Cole Azibo pour la traduction, merci à Claire Richard évidemment, Claire qu'on retrouvera dans 15 jours pour ce qui sera la dernière Place de la Toile de la saison. La semaine prochaine donc pas d'émission pour cause de marathon des mots, en revanche dans 15 jours, suite et fin des entretiens américains de Claire avec une autre figure importante de l'analyse du numérique, Lev Manovitch, l'auteur du gros livre de la Bible, Le langage des nouveaux médias. Manovitch, que Claire a rencontré à New York il y a quelques semaines. Grand entretien avec Lev Manovitch, ce sera donc samedi prochain, 18h10, dans Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte, stagiaire Cole Azibo, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h. Vous écoutez France Culture dans quelques instants. Ce sera Elisabeth Tchungi et son magazine de musique sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.